Rémy de Gourmont, le cierge adultère. Elle eut cette fantaisie et cette perversité. Elle voulut cela, que la nuit même où son mari devait rentrer de voyage, l'adoré tendre, frêle, un peu timide, resta près d'elle jusqu'à l'heure d'aurore imposée au train, plus longtemps encore jusqu'au bruit de la voiture arrêtée devant la porte, et plus longtemps encore jusqu'à la tremblante serrure de la clé tournant dedans. Car elle tremblera à la clé du maître au moment d'ouvrir le coffret de ses amours. Il m'aime, et déjà l'anxiété de la joie prochaine lui a ému le cœur. Cette cage s'est rétrécie sur l'oiseau frissonnant. Qu'elle se dilate à la chaleur de me voir. Mais moi, j'aurais eu mon anxiété, mais différente. Oh, que je ne l'aime plus, celui qui a le droit de me surprendre, de m'imposer à une heure convenue et réglée par lui, son plaisir de seigneur à jeun des baisers qui lui signifieront ma haine. Et pourquoi? Pourquoi je ne l'aime pas? Les raisons? Oh, il n'y en a pas. Te voilà, amour. Donnez vos lèvres, petit adoré. Tu es pâle. As-tu peur? Mais de quoi? Ben de ce que nous allons faire. Regarde-moi bien. Il n'y a rien d'insolite dans mes yeux. Si, de petites flammes, presque méchantes. Oui, petite adorée, je suis méchante. Ce soir, de toute la tendresse dont je fonds pour toi, je fonds comme une cire. Je coule comme un cierge au chevet d'une joie morte. Mais je veux m'exalter pour les funérailles qu'il nous faut. Enfin, folle. Enfin, oui, il revient. J'entends le trépidement du train. Les signaux se déclenchent. La gare grouille, les portières s'ouvrent, la porte s'ouvre, celle-ci. Toi, tu sortiras par cela. Mais quand déjà? À quelle heure? Oh, nous avons le temps. Je commence à m'amuser, songe. Il pense à moi. Il me voit, oui, mon cher, il me voit. Toute seule, somnolente, l'oreille aux aguets, les yeux cherchant l'heure, avide de l'heure exquise et définitive, il me voit. Mais me voit-il t'embrasser sur la bouche? Voilà ce que je voudrais savoir. Le petit adoré comprit mieux le baiser que les préalables divagations de son ami. Ami, il l'appelait ainsi, ou bien alors folle. Mais folle, jamais encore, elle n'avait été si peu, complètement, si noblement, si lisiblement, à la croire, ne pas la croire c'était également dangereux. Elle était capable d'imaginations bizarres, d'hallucinations, et capable d'être vraie et sûre. Qu'avait-il compris, en somme? Le baiser, le retour. Oui, pourtant, il faudrait savoir. Il demanda, sérieusement, à quelle heure revient-il? À 4 heures. Oh, tu as raison, Fall, nous avons le temps. Mais c'est triste, triste, triste. Triste? Ah, pas encore, dit Amy. Et elle se déshabilla, elle déshabilla le petit adoré. Et le petit adoré se dévêtit l'ami. Et il jouait, maintenant, s'excitait comme chat et chatte. Et le frêle amoureux, c'était lui qui semblait la timide femelle, car l'amie était plus grande que lui, plus forte, plus capricieuse et charnelle reine. Ils jouèrent, ils s'aimèrent, et voilà que, penchée sur le front pâle de son amant heureux, elle le contemple. Qu'il est pâle! Et pas un mouvement, pas un frémissement des muscles. La bouche est entrouverte, les yeux sont mi-clos, il a l'air évanoui. Son cœur, son petit cœur, oh, qu'il tremble, qu'il semble faible les battements de ce petit cœur, si faible qu'on ne les entend pas. Pas du tout. Petit adoré. Nulle réponse, nul geste, nul sillement. Alors elle le prend dans ses bras, mais il est inerte, il est lourd, le frêle amoureux. Si lourd que ses puissants bras de charnus sont trop faibles pour le faible amoureux, frêle, si lourd. Des essences, de l'eau, du vinaigre, des sels. Nul geste, nul sillement, nul souffle. Il est mort. Petit adoré est mort. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Elle disait cela, elle chantait cela, elle pleurait cela. Mort, mort, mort. Et c'était vrai. Elle se redressa, dégrisée, maîtresse d'elle-même, non plus folle d'amour ni de douleur, mais sérieuse et décidée, et brave. Dans le lit paré tapoté, bien refait, calme, sévère, elle coucha son amant selon la plus chaste attitude, selon le repos le plus pur, le drap revenant jusqu'au menton, les bras sortis du drap, les mains jointes sur la poitrine, aux mains un crucifix, parce que c'est le symbole le plus évident de la mort, celui qui dit plus clairement la vérité. Dernière et le dernier état de l'homme, voix muette, mais si éloquente, si funèbre, mais si absolue. Et quand elle eut déposé le crucifix entre les mains du petit adoré, La courageuse adultère redevint pour un instant peureuse, étant affligée qu'une faiblesse l'inclinât vers cette tête pâle, enfoncée là, et les lèvres, vers les lèvres et froides lèvres. Mais elle se redressa vite. Il fallait que cela fût plus royal et plus absurde. Il fallait une surprise plus stupéfiante, et une plus vraie satisfaction, et une plus digne justification de son amour. Elle vida de leurs fleurs l'antichambre et le salon. Toutes les grâces printanières furent emmenées sur le lit funèbre. Lilas et roses, muguet et mimosa, toute la chevelure gourmante d'un jardin de fées. Alors, elle se sentit presque contente et un peu ivre. Debout, les doigts crispés, l'haleine rapide, elle regardait l'amoncellement fou des fleurs, cette tête presque enfouie sous les roses. Mais tout à coup, sentant qu'une chaotique armée de réflexions allait prendre assaut sa cervelle démantelée, elle se mit à ranger ses fleurs artistement. Elle ne voulait plus réfléchir, ni songer à rien, ni songer à l'instant d'avant, ni à l'instant d'après. Être brave seulement, dépasser sa bravoure de femme, être héroïque imprudemment, oui, faire son devoir de belle et bonne adultère, puis se coucher sous la colère qui allait éclater comme un tonnerre dans cette chambre insolente, sur le calme insolent de la mort, sur l'insolente paix de l'orgueilleuse amante. Et les lumières, oh, ce fut son dernier décisif soin, et elle chargea définitivement l'armée des chaotique réflexion. Elle alluma les candélabres de la cheminée et, posés au chevet du lit, sur une table, ils eurent l'apparence de deux buissons ardents, de flammes inextinguibles et solennelles. Mais, sous l'avalanche de la lumière, le mort devenait hideux, la tête pâle éclatait d'une blancheur plus blême que le drap, plus blême que le batiste de l'oreiller, et des trous d'ombre se creusaient sous les yeux et le nez, ils s'allongeaient vilainement, et la bouche sembla méchante. Une bouche si douce. Il fallait mettre tout cela au point, organiser le jeu des lumières, maintenir la tête pâle dans une pâleur juste, combiner les ombres en vue d'un calme et de la beauté. Un des candélabres resta au chevet et l'autre se dressa au pied du lit. Et le cierge? Elle le retrouva dans un tiroir, entamé à peine, n'ayant pleuré que quelques larmes. Cierge pascal, cierge de gloire, qui lui avait plu d'acquérir un jour, cierge adultère et de blasphème, car il étincelait en pleurant les premiers baisers de l'ami et de l'adoré. Ce cierge, ah, que ce fut dur pour elle, la vue de ce flambeau d'amour, tout incrusté de grains d'encens, ce flambeau de consolation et de ressouvenir qu'il ne devait allumer qu'aux anniversaires, destinés à leur mesurer des années de joie et qui allait donner aux morts sa dernière lueur, pleurer sur le mort les suprêmes larmes, l'amertume du péché, en cette minute, lui contracta la gorge et lui troubla le cœur. Le cierge adultère, en l'achetant, en le profanant, en le faisant surgir de la cire sacrée, une flamme sacrilège, en l'érigeant témoin de mauvaises amours, elle avait acheté la mort, la condamnation de l'adoré et la sienne, car n'était-elle pas condamnée elle aussi? N'avait-elle pas exactement ce qui savait se passer, tout ce qui allait se passer, quand la troublante clé, tremblante, aurait ouvert à son seigneur et maître la porte de la maison adultère? Mais elle ne voulait pas réfléchir, pas encore, jamais. Sa bravoure était en acte et non en pensée. Elle alluma le cierge adultère, s'agenouilla, prit la boîte dans les mains jointes et un peu écartée du corps, et sans un mouvement que celui de sa poitrine effarée, elle attendit l'heure de son maître, la belle, la bonne, la brave, la glorieuse adultère.